Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je vais vous lire Essai sur la Gita de Sri Aurobindo, chapitre 16, la plénitude de l'action spirituelle. Voyons ce qu'il en est dans les termes les plus simples et positifs, et en considérant le problème qui est à la source de la difficulté d'Arjuna et de son refus. Son devoir d'être humain et d'être social et de s'acquitter des hautes fonctions du Kshatriya sans lesquelles la structure de la société ne peut être maintenue. Les idéaux de la race justifiés, l'ordre harmonieux du droit et de la justice soutenue contre la violence anarchique de l'oppression, de l'illégalité, de l'injustice. Et pourtant, l'appel au devoir ne peut plus en soi satisfaire le protagoniste du combat parce que, dans la terrible réalité du Guru Kshetra, il se présente en termes âpres, ambigus, dubitatifs. L'accomplissement de son devoir social en est soudain venu à signifier le consentement à un énorme résultat de péché, de souffrance et de chagrin. Les moyens coutumiers pour maintenir l'ordre social et la justice, voici qu'au contraire, il mène à un grand désordre et au chaos. La règle de la juste revendication et du juste intérêt, ce que nous appelons les droits, ne lui sera ici d'aucun secours. Le royaume qu'il doit remporter pour lui-même et ses frères et ses partisans dans la guerre est bien le leur, en effet, et de plein droit. Et son affirmation équivaut à renverser la tyrannie azurique et à défendre la justice, mais une justice ensanglantée, mais un royaume possédé dans l'affliction et souillé par un grand péché, un tort monstrueux causé à la société, un véritable crime contre la race humaine. Et la règle du dharma, du droit éthique ne l'aidera pas davantage car il y a ici un conflit de dharma, une nouvelle règle plus grande qu'il faut encore découvrir et nécessaire pour résoudre le problème. Mais cette règle, quelle est-elle ? Question. Se dégager de l'œuvre, en effet, prendre refuge en une sainte inactivité et abandonner le monde imparfait à lui-même et à ses méthodes et ses motifs insatisfaisants est une solution possible qu'il est facile d'envisager et d'exécuter. Mais c'est précisément la façon de trancher le nœud que l'instructeur Krishna, Sri Bhagavan Krishna, a instamment proscrite. L'action est dirigée, exigée de l'homme. Ainsi le veut le maître du monde, qui est le maître de toutes les œuvres de l'homme, et dont le monde est un champ d'action. Que les œuvres soient accomplies au moyen de l'ego, et dans l'ignorance ou la lumière incomplète de la raison humaine limitée, ou bien qu'elles proviennent d'un plus haut plan de vision et d'inspiration, et d'où l'on ait une vue plus vaste. D'autre part, abandonner cette action particulière comme mauvaise serait une solution d'un autre genre, le facile recours du mental moralisateur en sa myopie. Mais à cette évasion-là aussi, l'instructeur Sri Bhagavan Krishna refuse de donner son accord. qu'Arjuna s'abstienne et il s'ensuivrait un péché, un mal beaucoup plus grand. Pour peu que cela ait un effet, cela signifierait le triomphe du mal et de l'injustice et qu'il rejette sa mission d'instrument des œuvres divines. Une violente crise dans les destinées de la race humaine a été provoquée, non par aucun mouvement aveugle des forces, ni seulement par l'obscur conflit d'idées, d'intérêts, de passions, d'égoïsme humain, mais par une volonté qui est derrière ses apparences extérieures. En vérité, il faut qu'Arjuna soit amené à la voir. Il doit apprendre à agir d'une façon impersonnelle, sans que rien ne puisse le troubler. En instrument non de ses petits désirs personnels, de ses dérobades d'hommes faibles, mais d'un pouvoir plus vaste et lumineux, d'une volonté plus grande, toute sage, divine et universelle. Il doit agir impersonnellement et universellement en haute union de son âme avec le divin intérieur et extérieur, yukta. En un calme yoga, avec son moi suprême et avec le moi qui imprègne l'univers. Tout d'abord, il faut secouer les ailes de l'âme pour libérer du désir, de la passion, des émotions qui troublent et de toute cette atmosphère d'agitation, de distorsion du mental humain, et la faire entrer dans un éther d'égalité sans passion, dans un ciel de calme impersonnel, dans un sentiment et une vision sans égo des choses. Ce n'est en effet que dans cet air supérieur et transparent, dans ces étendues libres de toute tempête et de tout nuage que peut venir la connaissance de soi, que la loi du monde et la vérité de la nature peuvent être vues sans décalage, d'un œil panoramique et dans une lumière imperturbée qui englobe et pénètre tout. Derrière cette petite personnalité qui est un instrument débile, une marionnette passive et qui résiste en vain, de la nature et une forme représentée dans les créations de cette nature. Il existe un moi impersonnel unique en tout, qui voit et connaît toute chose. Il y a une présence égale, impartiale, universelle, qui supporte la création. Une conscience témoin qui permet à la nature d'élaborer le devenir des choses dans leur type particulier, Swabhava. Mais ne s'apprête ni ne se perd dans l'action dont il est l'origine. Se retrancher de l'ego et de la personnalité agitée dans ce moi calme, égal, éternel, universel, impersonnel est le premier pas vers une action visionnaire dans le yoga, vers une action accomplie en union consciente avec l'être divin et l'infaillible volonté qui, si obscur qu'il soit à présent, se manifeste dans l'univers. Lorsque nous vivons tranquillement établis dans ce moi d'un personnel en pleurs, alors, du fait qu'il est vaste, calme, paisible, impersonnel, notre autre moi qui est petit, faux, notre ego d'action disparaît en son étendue. Et nous voyons que c'est la nature qui agit, non pas nous, que toute action est celle de la nature et ne peut rien être d'autre. Et cette chose que nous nommons nature est un pouvoir exécutif, universel, d'existence éternelle. Un pouvoir en mouvement qui prend les différentes formes et différents aspects dans cette classe de ces créatures et dans cette autre et en chaque individu de l'espèce suivant son type d'existence naturelle et la fonction et la loi qui en résulte pour ses œuvres. Chaque créature doit agir selon sa nature et ne peut se conformer à rien d'autre. L'ego, la volonté et le désir personnel ne sont rien de plus que les formes intensément conscientes et que les opérations naturelles limitées d'une force universelle qui elle-même sans forme et infinie les dépasse de beaucoup. La raison, l'intelligence, le mental, les sens, la vie et le corps et tout ce dont nous nous targuons et que nous croyons nôtres sont des instruments et des créations de la nature. Mais le moi impersonnel n'agit point, ni ne fait partie de la nature de derrière et d'en haut. Il observe l'action et demeure le souverain de lui-même, un connaissant, un témoin libre et impassible. L'âme qui vit en cette impersonnalité n'est pas affectée par les actions dont la nature est un instrument. Elle n'y répond pas, non plus qu'à leur effet, par le chagrin et la joie, le désir et le recul, l'attirance et la répulsion, ou l'autre quelconque des 100 dualités qui nous tire, nous ébranle et nous afflige. Elle considère tous les hommes, toutes les choses et tous les événements d'un œil égal. Regarde les modes ou les qualités de la nature agir sur les modes ou qualités. Voit tout le secret du mécanisme, mais en elle-même, par-delà ses modes et ses qualités. Être essentiel, pur, absolu, impassible, libre, en paix. La nature élabore son action et l'âme impersonnelle et universelle la soutient, mais n'est pas imbriquée, n'est pas attachée, n'est pas empêtrée, n'est pas agitée, n'est pas déroutée. Si nous pouvons vivre dans ce moi égal, nous aussi sommes en paix, nos œuvres se poursuivent tant que l'impulsion de la nature se prolonge dans nos instruments. Il y a la liberté spirituelle et la quiétude. Cette dualité du moi et de la nature, du calme purusha et de la prakriti active n'est pas cependant tout notre être. Ces deux termes ne sont pas vraiment les deux derniers mots sur la question. S'il en était ainsi, toute l'œuvre serait parfaitement indifférente à l'âme. Et cette action, ou cette autre, ou cette abstention de l'action serait due à un caprice des perpétuelles variations des gunas. L'impulsion rajasique dans les instruments inciterait Arjuna à se battre, ou l'énergie tamasique et l'indifférence sattvique l'en dissuaderaient. Ou bien, s'il est vrai qu'il doit agir, et agir de cette façon seulement, ce serait du fait d'un déterminisme mécanique de la nature, de surcroît. Puisque l'âme est en retraite, et en sa retraite serait amenée à vivre dans le moi impersonnel et paisible, et ce serait de vivre si peu que ce soit dans la nature active. Le résultat final serait la paix, l'inaction, la cessation, l'inertie, non pas l'action imposée par la Gita. Enfin, cette dualité n'explique pas réellement pourquoi l'âme est tant soit peu tenue à s'imbriquer dans la nature et ses œuvres. Car il est impossible que l'unique esprit conscient de soi ait à jamais non imbriqué dans la nature, s'y perdre et perdre la connaissance de soi, et qu'il doive retourner à cette connaissance, ce moi pur, cet Atman, est au contraire toujours là. Toujours le même, toujours l'unique témoin conscient de soi, impersonnel et distant, impartial, soutien de l'action. C'est cette lacune, ce vide impossible qui nous oblige à supposer deux purusha, ou deux attitudes de l'unique purusha. L'un se crée dans le moi observant tout depuis son existence en soi, ou peut-être n'observant rien. L'autre, spontanément projeté dans la nature, se prétend à l'action et s'identifiant avec les créations de la nature. Mais même ce dualisme du moi et de la pakriti ou de la maya, corrigé par le dualisme des deux purushas, n'est pas tout le même credo philosophique de la Gita, qui dépasse ceci pour atteindre la suprême unité universelle d'un purusha supérieur, le Purushottama. La Gita affirme qu'il existe un suprême mystère, une suprême réalité qui soutient et concilie la vérité de ces deux manifestations différentes. Il existe un ultime et un suprême moi, Seigneur et Brahman, qui est à la fois l'impersonnel et le personnel, mais autre et plus grand que celui-ci ou celui-là et autre et plus grand que les deux ensemble. Il est le purusha, le moi et l'âme de notre être. Mais il est aussi la pakriti, car la pakriti est le pouvoir de tout âme, le pouvoir de l'éternel et de l'infini, spontanément incité à l'action et à la création. Ineffable, suprême, personne universelle, il devient par sa pakriti toutes ses créatures. Suprême Atman et Brahman, il manifeste par sa maya de connaissance de soi et sa maya d'ignorance, la double vérité de l'énergie cosmique. Voilà, alors aujourd'hui, Je termine le chapitre 16, la plénitude de l'action spirituelle, essai sur la Gita de Sri Aurobindo. Alors, je remercie infiniment tout ce que la Gita peut nous donner à travers Sri Aurobindo et Douce Mère. Merci Priya, Ganga Lakshmi, Savitri Bhavan, House of Mother, Agenda. Thank you Priya.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville,
la ville internationale in India.